Non, j'avais un truc genre Requiem for Cetacé, mais. Pff. Et puis après, j'avais autre chose à foutre.
Requiem for Cetacé, c'était ça ton titre.
J'ai pas trouvé de titre, voilà, ça m'arrive aussi de temps D'accord. en temps. Mais... Non, j'ai cherché, je me suis dit, ouais, Wally, mais bon, il n'y a pas de rapport avec les robots.
Big Daddy.
J'ai pensé à Nemo, mais bon, c'était déjà pris.
J'ai pensé à Nemo, mais bon, c'était déjà pris, ouais. Nemo, le monde de Nemo. J'ai pensé, non, je sais pas, je voulais parodier un film de genre Black Swan, tu vois, on aurait pu trouver un Black Whale. Mais bon, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui est venu.
Pizza.
Pizza. Pizza, il a dit le bâtard.
Ah non,
après,
ça dégénère.
Pizza. Mais c'est pas possible, mais c'est drôle.
Tu mets pizza. Ah, c'est
pizza. Bon, wow. In a world.
No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Ouais. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fête ABA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune
objectivité.
Aujourd'hui, après Tonton Stevie, on reste dans cette belle atmosphère d'Oscar tout proche et on garde nos portes ouvertes à ces réalisateurs qui font battre nos cœurs de cinéphiles ou pas. Je parle bien entendu de Darren Aronofsky qui nous fait son comeback au ciné après quelques années loin de la caméra. Il en profite même pour faire revenir devant cette caméra une icône de notre jeunesse qu'on pensait déchue, Brendan Fraser. Un retour possiblement en or si l'on en croit la presse. Bref, on accueille pour la première fois le cinéma aronofskien et on tentera de vous dire en un mot ce qu'on en pense. Vous l'avez compris, cette semaine c'est la BA de The Whale, et The Whale dans la langue de Shakespeare ça veut dire baleine. Une intro toute trouvée pour vous présenter la team d'aujourd'hui.
Asthmatique, remarque. Qu'est-ce qui se passe?
Je parle baleine comme Tony. Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour les amis.
Être se noyer la baleine.
Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler. De ce Whale.
Je sais pas trop si c'est un orque.
Fumer des clubs. La fumée des clubs, ça baleine.
William. Bonjour William et les amis.
Voilà.
Tu tiens pas beaucoup la baleine.
Non, moi je maîtrise plus le dauphin en général, ça. C'est plus mon truc.
Et pour finir, autour de la table, nous avons Clément.
On dirait une vraie baleine.
On dirait Alain Chabat qui fait la baleine.
Putain, c'est ouf.
C'est ouf.
On dirait une vraie baleine, quoi.
Je ne suis pas très fluente. Oh. Baleine.
Merci pour cette intro.
Trouille. Nous devons migrer vers les mers chaudes.
Waouh. Ben voilà, encore une intro qui marquera à jamais l'histoire. Hein. L'intro baleine. On n'est pas parti chercher loin, voilà. Allez, maintenant que la honte est bien imposée là, c'est parti, on va se lancer. Aujourd'hui, c'est le film The Whale, voilà, The Baleine, The Whale, vous avez compris, on parle du coup baleine, super, allez, on a bien rigolé. Alors, un film de Darren Aronofsky, un réal qui fonctionne bien, qu'on aime bien ici autour de la table aussi. On va le présenter parce que c'est la première fois qu'on l'a à Fetabea. Parce que monsieur, ça faisait longtemps aussi qu'il n'avait pas pris la caméra. Alors Darren Aronofsky, scénariste, producteur, réalisateur de 54 ans. Né à New York.
Je peux dire 54 films.
Pas autant. Né à New York et il a fait Harvard, le monsieur.
Et
Et
quand même, hein.
Et oh. Attention, hein.
Une tête.
Et oh.
Et c'est une tête, le coco. Bah,
est-ce qu'il l'a fini, Harvard?
Ah oui, si ça se trouve, il est juste rentré. Oui. Et
il a juste passé le
temps d'entrer. Fabriqué à Harvard.
Vous n'avez pas compris.
Harvard pour Aronofsky, c'est quand même assez prestigieux, quoi. Il y a ensuite une rencontre qui s'effectue là-bas. C'est là qu'il rencontre Sean Gouliette. Sean Gouliette, hein, c'est le perso principal de son premier film, son premier long, qui n'est autre que Pi.
Avec son poteau.
En fait, c'était son court-métrage d'étudiant, en fait.
C'est ça, je crois bien. Je crois bien que c'était son... Bon, en tout cas, c'est son premier... C'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage. C'est son premier long. Et c'est un long, voilà, pour faire un peu l'histoire, pour raconter un peu ses débuts. Aronofsky, il a demandé à ses copains, en fait, et sa famille de le financer, parce que quand tu commences, la plupart du temps...
T'as pas une thunasse.
Donc voilà, il a des petites donations par-ci par-là des copains et de la famille. Mais il trouve quand même de quoi faire son film. Il fait son film et ensuite il le présente à Sundance en 98. Et puis là, ça y est, hein, l'histoire en marche. Aronofsky conquit un peu le cœur de tous ceux qui sont là-bas. Et il est acclamé par la critique. Le film, du coup, qui a coûté très peu. Hein. Le film, je crois que c'était 60 000 $. C'est vraiment,
ouais, c'est ça.
C'est vraiment une bouchée de pain dans le
monde.
Il a même
fait des économies sur la couleur.
Oui, pour le coup. Ouais. Il a fait des économies sur la couleur. Et le film, quand même, c'est plus de 3 millions de recettes. Donc, bel investissement.
Ouais.
Il a pu rembourser tout le monde, je pense, même avec un petit intérêt. Là. Allez hop, tiens, mamie, tu n'attendais pas celle-là. Bah, bam. Merci pour tout, pour ton billet. Et c'est là, ça part. Et là, surtout, là où on le connaît le plus, Aronofsky, c'est la consécration en 2000 avec Requiem for a Dream.
Ah, oui.
Qui a marqué toute une génération.
Qui a marqué... Vous, ça vous a marqué
notre génération.
Ouais, ça t'a marqué, toi, Clémence?
Ah, ouais. Un film d'adolescence, clairement. Un film que j'ai vu à un date, un mec qui m'avait mis ça.
Un date,
ouais.
Film de date de ouf.
Qui est cette scène de fin. Je me souviendrai toujours de cette première fois où j'ai vu Requiem for a Dream, c'était en date. Ouais.
En date. Oh, trop ouais. Bien le date. Autour de la pipe à crack, là, putain.
Tu l'aimes la scène bien, de fesses contre fesses.
Non, mais déjà, à l'époque, même avant de le voir, je sais qu'il était culte dans l'esprit des jeunes lycéens autour de moi, tu vois, et... J'étais hyper curieuse, c'était un peu ça, et l'Exorciste, tu vois. C'est pas du tout la même époque de film, mais c'était deux films où on disait « Ouais, c'est hard, faut les voir. »
Est-ce qu'il t'a traumatisé, le film?
Non.
Moi, ça m'a fait un petit truc, quand même.
Ça dépend l'âge auquel tu le vois. Moi, je me rappelle l'avoir vu au collège. Il sort en 2000, et en 2000-2001, moi, je rentre au collège, et je me rappelle que c'était le film que tout le monde essayait de voir, alors qu'on n'avait pas trop le droit de le voir. Tout le monde en parlait. C'était vraiment le film culte, en effet, de cette génération. Enfin, de ma génération, en tout cas, c'est un des grands films cultes
c'était
du collège. Quoi.
Marqué,
c'était
Kevin, toi aussi?
Bah ouais, c'est à cause de ce film que je me suis mis à la drogue, notamment.
Putain, ça t'a donné envie?
Ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais c'est génial. Non, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'étais un peu trauma de ce film, parce qu'il y a une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a la... c'est la grand-mère ou la mère du héros, je ne sais plus, c'est sa mère.
La mère qui
se prend des électrochocs.
Ah oui.
Et horrible. Cette scène, elle m'a traumatisé. Quoi.
Oui, on lui met de la truc dans la bouche, là, ouais. De la pâtée.
Ça m'a même plus traumatisé que le bras en moins ou que le fesse contre fesse qui est méga glauque, mais je sais pas, la violence, comment c'est filmé en plus en plan serré sur son visage, c'était. En plus, je l'ai vu un peu trop tôt ce film, je crois. Je l'ai vu à 11 ou 12 ans, un peu en soum-soum.
Oui, donc c'est un film à voir vraiment après 16 ans.
Oui, attendez un peu.
Mais aujourd'hui, c'est un film qui a quand même assez mal vieilli, je trouve. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, ah ouais, c'était vraiment que ça, quoi.
Que de la drogue.
Non.
Bah moi, je l'ai vu quand même plusieurs fois. Je trouve qu'il est quand même assez brillant, le film.
Il faut peut-être que je le revoie.
Et puis après, sur YouTube, on l'entend beaucoup, ce film, cette musique.
C'est ça. À l'époque, moi, en fait, j'avais la BO dans mon petit baladeur et j'écoutais ça en allant prendre le bus le matin.
L'ambiance
dans la rue.
sur n'importe quel programme de M6, TF1, c'était dès qu'il y avait un moment un peu...
Oh, Michel est policier.
Les jeunes de ces quartiers, ce sont vraiment des bougres. Et voilà, et ça balançait la musique et Requiem for a Dream, on n'en pouvait plus. Ensuite, il continue après le monde de la drogue, il va dans le monde de la SF avec The Fountain, un film que je n'ai pas vu. C'est le seul que j'ai pas
excellent
vu.
Film. Qui est le film préféré de Clément, je crois.
Ouais, c'est mon film préféré de tous les temps. Et pour ne pas l'oublier, je l'avais noté dans un carnet. Film préféré de tous les temps égale The Fountain.
Au cas où,
au cas où j'oublierai.
C'est quoi ton film préféré? Attends, mon carnet vite.
Non, mais en fait, j'avais écrit ça après l'avoir vu parce que quand je l'avais vu, j'avais été bouleversée comme je l'ai très très rarement été après un film.
Et là, je te donne 15 secondes pour me le vendre, moi qui l'ai pas vu. Ouais, qu'est-ce que tu me fais?
Si tu aimes les films transcendantaux qui parlent de la mort, mais de manière hyper poétique et onirique, bah regarde The Fountain.
Et de l'amour.
Pas aimé Tree of
de
Life.
La mort et l'amour, et bien
l'amour,
sûr.
Et de l'amour,
bien sûr.
C'est
Eros
avant
et Thanatos.
Tout.
Et t'as pas aimé Tree of Life?
Alors, en fait, allez, c'est un
débat,
peu plus narratif que Tree of Life.
Ok. Voilà. Allez, bam.
Il filme un peu moins depuis son lit, quoi.
Si vous aimez, la poésie à la Malick, mais que ça vous fait chier Malick, bah regardez The Fountain.
The Fountain, ok. Écoute, on retient. Faudra que je le mate un de ces quatre. Moi, j'ai un peu de mal à me lancer dans The Fountain. Mm. J'avoue que ça a l'air vraiment ultra cérébral.
Pour
film.
Le coup, en fait, je pense qu'il a pas très bien vieilli non plus. Enfin, il est un peu décalé par rapport à aujourd'hui parce qu'il a un côté aussi très fantasy. En fait.
D'accord. Ensuite, il y a mon film préféré de Aronofsky en 2008, c'est The Wrestler.
Très bon film.
C'est mon film préféré.
Qui a ramené sur le devant de la scène Mickey Rourke, qui avait complètement disparu.
Un film beaucoup plus terre à terre que The Fountain pour
et
le
c'est
coup.
Marrant que ça soit ton préféré. Moi, c'est celui que je trouve le moins.
Ah ouais,
le
moi
plus
j'adore.
Chiant.
Ah non.
Pardon, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. Pourquoi c'est ton préféré?
Mais je sais pas, parce que l'histoire m'a beaucoup plu. J'ai aimé la performance de Mickey Rourke qui revenait un peu là d'outre-tombe, quoi. Okay. Marissa Tomei, enfin, j'ai vraiment aimé l'ambiance un peu crasseuse, mais aussi cette touche d'espoir sans que tu puisses jamais l'atteindre. Enfin, il y a vraiment un truc que j'aime bien dans le film, que vraiment c'est l'histoire.
En plus, formellement, c'est un tournant aussi dans sa carrière. C'est le film qui préfigure Black Swan en plus en termes de style. Alors qu'avant, il était un peu plus, expérimental. Peace et du noir et blanc sans contraste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gris, c'est que du noir et du blanc. The Fountain, c'est hyper.
Oui, même visuellement, The Fountain, il y a une photo.
C'est hyper recherché, c'est hyper graphique. C'était d'ailleurs, il a fait une BD à partir de The Fountain, ou il l'a fait avant, je sais plus. Puis Requiem for a Dream, il y avait pas mal d'expérimentation, les yeux, le montage super alterné et tout. Alors que The Wrestler, il est un peu plus naturaliste finalement.
Ouais, c'est peut-être ça qui me plaît, je pense. Ouais. J'aime bien, moi, ce genre d'histoire. Mmh. Un peu à la Sean Baker, là. Celui qui a fait Red Rocket et tout, tu vois, ça. Ouais. Vraiment ce milieu rural, un peu américain, star déchu. En plus, ça, c'est dans le milieu du catch. Pas forcément un milieu que j'aime bien, mais pour le coup, ça m'a fait kiffer. De mettre un personnage comme ça, parce que c'est vraiment très... On a déjà vu un peu ce genre de film ailleurs, tu vois, mais pour le coup, vu par Aronofsky, et dans ce milieu-là, j'ai kiffé.
Et première apparition d'Evan Rachel Wood, non?
Evan Rachel Wood, je me souviens bien même sûr. Plus, c'est qui, sa fille?
C'est sa fille,
ouais. Ouais, bah voilà.
Première apparition, je crois.
Non, sa première apparition, c'était dans la série Deuxième Chance.
Ah oui?
Sur
excuse-moi.
Ça a l'air trop coté, ça. Ensuite, voilà, Black Swan, alors là, ça lui a ouvert les portes.
C'est consécration pour lui. Hein.
Les portes
la vraie consécration.
De la profession, hein, vraiment. Parce que, ouais, consécration pour Nathalie Portman, qui va décrocher la petite statuette avec Black Swan.
Et Mila Kunis, qui revient aussi pas mal sur le devant de la scène après quelques gros navets au cinéma, comme.
Sex Friends?
Non, le truc avec le flic, là, qui est adapté d'un jeu.
Ah oui, Max Payne.
Ouais. Ah, Max Payne, ouais.
Max Payne.
Tout à fait. J'avais oublié qu'il y avait Mila Kunis.
Eh oui.
Il y a Olga Kurylenko aussi qui, malheureusement, est abonnée au.
Il ne s'en est jamais sorti depuis.
Black Swan, moi, je l'avais vu en avant-première et j'étais complètement malade. Je sais pas pourquoi j'y suis allé, mais je voulais absolument le voir en avant-première.
Et ça t'a guéri?
Non, mais j'ai pas arrêté de tousser pendant la séance. Ça le blindait. Le mec à côté de moi avait juste une envie de me tarter, quoi. Et je, tu vois, je retenais mes toux. Il y a rien de pire que quand tu retiens ta toux. C'était horrible. Voilà, c'était la petite anecdote.
Non, par contre, la musique, bon, évidemment, c'est celle du Lac des Cygnes, mais elle est aussi très très marquante comme BO.
Ouais, c'est
je me l'étais achetée.
C'est qui l'a fait? Atticus, c'est pas Atticus Ross, Train 13?
Non, c'est Clint Mansell.
Ah oui, bah, c'est le même que
il est abonné.
Clint Mansell, favori de Darren.
2010, on était pour Black Swan. On arrive en 2014 avec le film rompiche de toute sa filmo. Alors là, moi, j'ai dormi.
Ah bah Noé. Moi, c'est mon préféré parce que j'adore Dieu.
Noé.
J'adore Dieu.
Noé.
Et les animaux aussi.
Et les animaux, donc j'adore. Et puis Emma Watson, je suis fan d'Emma
Watson.
Je
ne retiens rien de ce film. Je me suis endormi.
Pareil.
Je l'avais vu avec ma mère. J'ai fait que dormir.
Oh, c'est une tristesse, Noé. Parce... Enfin, moi, je trouve que déjà Noé, c'est une BD à la base qui scénarise et qui est une BD qui est pas trop mal en plus. Bon, il a un peu changé pour le Cinoche, mais je trouve qu'il y a une super scène dans Noé, qui est la seule scène bien. C'est la scène où il croise le diable au marché. Je sais pas si vous
acheter des aubergines.
Non, il y a une scène où t'as une espèce d'émeute où tu vois que le monde est en train de péricliter, que c'est la merde et que les humains c'est des connards, ils se détestent et tout, nanana. Et il croise un mendiant qui s'avère être Satan et tout, et tu comprends. Et là, t'as vraiment une manière de mettre en scène le. le personnage qui est vachement bien pensé, quoi. Mais à part ça, ouais, c'est vraiment chiant,
ouais,
à mourir.
Ouais, c'est
quoi.
Chiant à mourir.
Et le casting, pour une fois, est assez oubliable, je trouve, entre Emma Watson ou. Comment il s'appelle ?
Russell Crowe.
Russell Crowe, ouais.
Logan Lerman, pareil.
Alors qu'ils peuvent être bons ailleurs, mais. Enfin, surtout Russell
ouais.
Crowe. Mais...
De toute façon, je crois que ça a été un échec. Hein.
Le Caillou, ouais. Il joue très bien.
Ouais. L'Arche. L'Arche est le meilleur personnage du film, quoi.
Très
grosse Arche. Et là, avant The Whale, Mother, en 2017, apparaît un film qui a fait beaucoup parler. Parce que beaucoup de gens ont peut-être pensé, peut-être d'ailleurs à cause de sa BA, faudrait qu'on se renseigne là-dessus, mais on pensait que ça allait être
un film d'horreur.
Un film d'horreur un peu, ouais. Et
c'est
en fait,
un petit peu un film d'horreur.
C'est horrifique, mais c'est pas l'horreur, c'est pas le code de l'horreur, quoi. Tu vas pas voir ça à chapitre 3, tu vois.
Oui,
moi, je trouve que c'est un peu Home Invasion, un peu horrifique quand même.
Ouais, mais c'est fait avec d'une manière qui est ouais. pas conventionnelle. Qui n'est pas en tout cas ce que les gens attendaient. Oui. Quoi.
Et aussi, il a beaucoup fait parler parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture possibles sur ce film. Et je me souviens, c'est un des films récents où il y a le plus d'analyses en fait, sur le net. Après, les gens étaient fous. Plein d'articles. Ouais, si vous voulez comprendre Mother, voici
ah ouais, mais
la
t'es
réponse.
Sous pression. Tout le film, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Parce que c'est l'intention, à mon avis, d'Aronofsky à ce moment-là. Mais vraiment, ça marche pour le coup.
Ouais.
Mais c'est pas agréable comme ça.
Un effet roller coaster un peu
ouais,
aussi.
J'étais pas bien. J'avais l'impression d'être dans un étau du début jusqu'à la fin. C'était. Donc voilà. Après, la petite pause hein, de 2017 jusqu'à 2022. 2022 sort The Whale. Et on va en parler avec la BA. Mais avant, j'aimerais qu'on explore un peu plus. D'habitude, on le fait après la BA, mais on va le faire là maintenant. Donc si vous voulez aller à la BA directement et que ça vous intéresse pas ce qu'on pense du cinéma d'Aronofsky, il y a le timecode dans la description. Mais en un mot. Je vous ai demandé, vous connaissez cet exercice, hein, chaque fois qu'il y a un nouveau réal un peu voilà, qui est là, hein, qui est dans les standings, on en parle en un mot. Les mots d'aujourd'hui pour Aronofsky, le premier mot, on va le lancer tout de suite, comme ça on sera débarrassé, c'est neutre. Qui a dit neutre
oh, c'est William, ça. Ah, plus qu'il nous dit en
pourquoi
off.
Pourquoi neutre, William, pour le cinéma d'Aronofsky?
Eh ben, c'est simplement parce que même si j'ai aimé tous les films que j'ai vus de lui, j'en retiens quasiment rien, à part Requiem for a Dream, qui était... comme on disait, le film de notre génération. En fait, je trouve que c'est des bons films, hein, mais vraiment, je serais incapable de dire quel est le cinéma d'Aronofsky, qu'est-ce qui le démarque en tant que réalisateur, quels sont ses gimmicks de réalisation, ses gimmicks de mise en scène. En fait, vraiment, je suis hyper neutre par rapport à lui.
T'es pas touché, en fait.
J'ai aucun avis sur le mec, en fait. J'aime ses films, mais quand il en fait pas, genre, je pense pas à lui, je me dis jamais, oh, j'attends le prochain Aronofsky. Non, mais...
Comment ça, tu ne penses pas à lui?
Alors que je sais que je vais aller voir le film et que là, je vais sûrement kiffer, tu vois, mais je sais pas, il y a rien qui me marque chez lui.
Il manque la petite touche qui ouais. ferait qu'il serait dans tes petits papiers.
Mais bon, je sais que Kevin, il a écrit un mémoire sur ce gars-là, alors peut-être que je me dis que je vais lire son mémoire et qu'on verra.
C'est
quoi.
Vrai, j'écris.
On va y venir hein, quand Kevin va nous donner son mot. C'est vrai que je voulais faire une petite allusion à ça, Kevin.
Il va nous refaire sa soutenance.
Il y a le poster au-dessus de sa chambre.
Donc, hein. Bien entendu, mon mot neutre,
son
c'est pas.
Pas aller jusque-là.
Mon mot neutre, c'est pas par rapport à son cinéma, c'est plus par rapport à mon ressenti de son cinéma,
ouais,
tout simplement parce que je pourrais pas trop te dire ce que je pense de lui.
Ouais. Comme on dit dans le jargon, ça t'en touche une sans bouger l'autre.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Un autre mot. À vous de deviner qui l'a dit oppressant.
Clémence ?
Bah non, c'est Kevin.
Ah.
Non, c'est peut-être Romain.
Bah arrête,
j'avais Clément. Oublié que tu jouais.
Mais on n'est pas dans Among Us là, Clémence, c'est toi.
Mais non, c'était pas oppressant mon mot, c'était éprouvant. Tu sais pas lire.
Ah putain, merde, oui.
Ouais.
Oh,
c'est
merde.
Pas le même mot et je travaille dans l'édition. Donc
bah, c'est pareil à peu près. Bon, éprouvant, pardon. Bah, c'était Clémence, voilà, allez, tout est gâché.
Ah bah bravo.
Pourquoi éprouvant, Clémence ?
Ça veut pas dire la même chose. Éprouvant parce que c'est un peu ce qu'on a dit par rapport à Mother quand on l'a vu au ciné. J'ai vu peu de Aronofsky au ciné, mais notamment Black Swan et Mother. Quand j'en suis sortie, c'était une grosse claque dans ma gueule et j'avais été éprouvée physiquement. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est des films, je trouve, ils laissent pas indemne parce que c'est toujours des trajectoires de personnages qui sont jamais heureuses, en fait. C'est toujours un peu une descente pas aux enfers, mais voilà, il se passe toujours des choses de façon psychologique, logique et très sensorielle qui sont désagréables, en fait, que t'as pas forcément envie de voir. Ils te montrent des choses qui sont réelles, qui sont justes, mais qui sont pas la beauté du monde ou un truc de bisounours.
Il y a très peu d'espoir, quoi, aussi. Hein,
en fait, c'est vrai que maintenant que t'en parles, tous ces personnages, en fait, ils finissent mal quasiment dans tous ces films. Genre, là, maintenant que t'en parles, c'est vrai que je m'en rends compte, tu vois.
Bah, disons qu'ils vont à leurs limites, tu vois.
Bah,
et c'est toujours des sujets assez différents, mais ils vont toujours à leurs limites, ils dépassent un peu les limites, et du coup, ben...
Jusqu'à la chute.
Ouais, voilà.
Putain, qu'est-ce qui va arriver à Brendan ? God damn. Un autre mot, enfer.
Fait des lancements, Romain. Tu...
Ah ouais, là, je suis en roue libre. Enfer.
Enfer.
Enfer. Qui a dit enfer ?
Bah, c'est toi, parce que c'est pas moi.
Oui, bah voilà. Bah, c'est un peu con comme jeu. Enfer, mais je suis obligé de mettre paradis aussi avec, tu vois.
Ouais.
Parce que c'est vrai que pour moi, bah, ça rejoint le mot de Clémence, éprouvant. Parce que c'est vrai que toi, tu voulais pas le dire, mais moi, je le dis. Hein. Descente aux enfers, c'est ce qui arrive souvent à ces personnages. Que ce soit littéralement hein, ce côté religieux dans Noé par exemple, où vraiment on est face au déluge, on est face à l'enfer qui se déverse sur la terre, et cette idée de paradis à regagner. On retrouve aussi cette idée de paradis et d'enfer, forcément, parce que le paradis artificiel dans Requiem for a Dream, bah, c'est les drogues et tout, mais finalement, ce qui est à la fin, et d'ailleurs la fin, tout le monde termine mal, hein. Tout le monde termine très très mal, hein. Y a pas une seule once d'espoir, tout le monde finit aux enfers après avoir exploré le paradis artificiel de la drogue. Mais c'est aussi ce qu'on peut retrouver aussi dans Pi, hein, d'une certaine manière, où il explore aussi le côté religieux, même si c'est très, comment dire, cérébral, dans le sens où...
Il
met les maths au cœur de tout ça, mais bon, ça devient très... ça devient un enfer pour
les mathématiciens. Et en vrai, est-ce qu'il n'est pas en train d'explorer les sept péchés capitaux avec ses films et on s'en rend compte à la fin, en fait, genre la vanité, etc.
Et peut-être, hein.
Les cercles de l'enfer, peut-être.
Tu vois, mais même dans Black Swan, il y a aussi cette opposition entre le signe blanc, le signe noir. Il y a toujours cette idée de deux univers qui existent sur le même... Comment dire, voilà, ça fait tomber des micros en live. Qui existent sur la même ligne d'horizon, mais qui vont finir par se rencontrer. Et donc voilà, et à chaque fois, ça finit aux enfers. Il n'y a pas, comme tu l'as dit, William, il n'y a pas un moment où ça finit bien.
Oui, parce que même dans Noé, où Noé, à la fin, arrive à avoir sa mission, il est lui-même alcoolo, il renie son fils, enfin c'est la malédiction de Cham et tout.
Et dans Mother, dernièrement, il y a aussi cette idée de présenter ce petit Eden dans lequel sont Javier Bardem et Jennifer Lawrence, et en fait, qui finira complètement... C'est à ce moment-là, c'est le bar de Belzébuth.
Mais là où je trouve que Mother est intéressant, justement, et plus complexe, c'est que les personnages principaux de Jennifer Lawrence, alors peut-être que c'est elle qui va à ses propres limites et qui fait une descente aux enfers, mais je trouve que ça vient pas tant d'elle que de l'extérieur, tu vois. Des autres persos qui l'envahissent, etc. Et du créateur qui est au-dessus d'elle, etc. Donc je trouve qu'il est un peu plus...
Ah, créateur, ça aurait pu être un mot aussi, c'est vrai que ça revient souvent.
Parce que finalement, le personnage principal de Mother, je pense que c'est pas elle. Je pense que c'est Javier Bardem.
Oui, ouais, bah voilà, ça doit être pour ça, en fait. Mais on est très avec elle,
elle
tu vois.
Elle a subi les conséquences de ce mec-là, parce que c'est lui qui décide.
On est autant avec elle que la meuf dans Black Swan, et pourtant dans Black Swan, c'est vraiment elle qui est au centre, tu vois.
Mais voilà, c'était mon mot, parce que c'est vrai que dernièrement, quand je suis sorti de Mother, j'ai dit c'était l'enfer. C'était un véritable enfer, c'était trop.
Ouais. T'imagines des gens qui s'assoient sur ton lavabo comme ça?
Ouais, non,
putain, l'enfer.
Le mec qui s'est dit ça aussi, c'est le gars qui était assis à côté de toi à Black Swan, quoi. Enfin, c'était un enfer.
Quel enfer, cet enfoiré
qui
toussait à côté de moi.
Qu'est-ce qui arrive?
Bon, bah, on termine avec le mot de Kevin. Je t'ai gardé pour la fin parce que c'est vrai que toi, t'as carrément écrit un mémoire sur Aronofsky.
Oui, bah, j'ai écrit un mémoire sur un film d'Aronofsky, j'ai pas fait toute la carrière.
Ouais, mais du coup, t'as exploré un peu tout ce qu'il avait fait jusqu'à...
J'avais fait effectivement un mémoire...
Donc du coup, il avait pas encore fait Noé à ce moment-là, parce que tu l'as écrit en 2013, c'est ça le...
Je l'ai écrit en année universitaire 2012-2013, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc t'avais Pi, The Fountain, The Wrestler, Black Swan à ta portée pour...
C'est ça, et j'ai gardé que Pi.
Au début, tu voulais faire sur plusieurs, et il me semble que t'avais séquencé autant Black Swan...
Je voulais faire sur l'intégralité des films sortis, ouais.
Mais c'était trop.
Mais elle m'a dit c'est mort. Elle m'a dit c'est mort, fais-en un bien s'il te plaît.
Fais-en juste un. Et ton mot c'est obsession.
Ouais, c'est obsession parce que dans tous les films d'Aronofsky, je trouve que les persos, eh ben, c'est des persos qui sont obsédés par quelque chose. À chaque fois, bah, dans Pi, le mec il est obsédé par le fait de trouver la formule mathématique qui va régir le monde. Dans Black Swan, elle est obsédée par le fait d'être la meilleure danseuse possible pour son ballet. Dans The Wrestler, il est obsédé par le fait de retrouver sa fille, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'être obsédé par cette carrière qui le hante.
The Fountain.
Dans The Fountain, bah, c'est l'obsession de trouver le remède au cancer de Rachel Weisz. Enfin, voilà, à chaque fois, c'est cette histoire-là, quoi, finalement. Et je trouve qu'il explore juste notre... comment notre humanité à chaque fois elle est toujours dirigée vers quelque chose qui finit par nous détruire, quoi. C'est ce qui nous fait vivre qui finit par nous détruire, en fait. C'est notre motivation qui nous tue, quoi.
Est-ce que tu crois qu'il transpose ses obsessions dans celles de ses personnages, du coup?
Alors, surtout dans les derniers films là, à mon avis. Déjà dans Mother, tu as quand même le gars qui est le créateur, donc qui est une métaphore de Dieu mais qui est aussi une métaphore de lui, je pense. Surtout qu'il avait écrit Mother à l'époque où il s'était séparé de son ancienne femme, si je dis pas de bêtises, donc où il y avait, j'imagine, des discussions là-dessus, des disputes sur le fait qu'il n'était pas assez présent parce qu'il était à fond dans son boulot, etc. Et là, on a encore un écrivain, un auteur dans The Whale, finalement. On a un prof qui ça se manifeste différemment dans le film, mais voilà, qui est détaché de sa famille et qui est en totale perdition, mais qui a quand même cet aspect créatif, cet aspect auteur, quoi. Donc ouais, je pense qu'il se transpose beaucoup, hein. Vraiment.
Obsession. Bah, je pense que c'est des bons mots, hein. Voilà, vous le savez. Hein, voilà. Le cinéma d'Aronofsky, pour nous, c'est un cinéma d'obsession, c'est un cinéma éprouvant, c'est un cinéma de personnages qui qui visite l'enfer, qui tombe dans les enfers.
Qui est malheureusement assez noir, du coup, hein, en termes d'émotion.
Ah, c'est sûr que là...
On en sort rarement avec...
C'est pour ça que faire un date avec
Requiem... Oui. On rit pas beaucoup avec
Mais tu sais, ça m'étonne pas que Requiem for a Dream ait été culte pour nous à l'adolescence, parce qu'en fait, c'est pareil, obsession, addiction, c'est un truc qui, en fait, parle énormément quand t'es ado, ce truc-là. Et ça me rappelle... Enfin, ça me fait penser un peu en parallèle à Euphoria, aujourd'hui, tu vois, une série comme Euphoria, qui parle aussi de ça, c'est en vrai, fait, ouais. Qui parle du fait de tester ses propres limites, d'être un peu addict à plein de choses très variées.
Et en effet, c'est normal que ça parle à une génération entre collège et lycée, qui sont peut-être les premières étapes où tu explores le plus, et à la fois ton corps et tes limites intellectuelles et physiques. Et...
Bah, au moment où j'ai vu Requiem, j'avais rien fait de tout ce qu'ils font dans le film.
Oui, moi,
moi j'avais juste fait le fesse contre fesse, moi. Ah, oui.
Oh.
Ok. Oh, j'étais très, très en avance pour mon âge.
Après une petite pause de 2017 à 2022, le revoilà avec The Whale, qu'on n'a pas vu, je précise, parce que peut-être que les gens ils savent pas si vous débarquez là. Nous, on voit pas les films avant de faire la BA, évidemment.
On ne triche pas.
Aucun intérêt de se faire des films avec, autour d'une BA, d'un film qu'on aurait déjà vu. Donc voilà, The Whale 2022, présenté en avant-première à la Mostra de Venise. Donc allez hop, petit standing ovation, je crois qu'il y a eu
retour de Brendan Fraser,
pas n'importe quoi, voilà, le retour de Brendan Fraser, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est aussi, ça je l'ai appris, une adaptation de pièce de théâtre,
ouais.
Je savais pas, donc une pièce de théâtre qui s'appelle aussi The Whale, tout simplement, de Samuel Hunter. Bon voilà, je suis parti regarder un peu des images sur internet, c'est vraiment, on a l'impression
Samuel
d'être
Hunter, le chasseur de baleines.
Le chasseur de baleines, Moby Dick, et y aller, il faut y aller dans la mer. Attention, le capitaine accoste, on se dans la mer, plonge vite.
I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter.
Are you actually trying to parent me right now?
Who would want me to be a part of their life?
You don't stay in touch with Mom?
She really only tells me things about you.
Why?
Because that's all I want to know about.
Why'd you gain all that weight?
Someone close to me passed away, and it had an effect on her.
You haven't seen her since she was 8 years old, and you're gonna reconnect with her?
Sorry.
I don't like this. This isn't a good idea.
I'm sorry.
You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God.
Go ahead, what's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least.
Why do you suddenly need to see her so bad? Why now?
Liz. Worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay.
Ooh,
Brenda!
Samuel Belmont! Oh putain, j'espère que c'est pas la première fois que vous tombez sur nous, auditeurs, auditrices, parce qu'il faut se dire, on fait des épisodes où on parle normalement, il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, on est en au délire.
Vendredi soir, bientôt le week-end.
C'est le délire. Alors, la BA de The Whale, on vient de se la regarder, vous l'avez écouté, si vous en êtes là, mais vous pouvez aussi la voir, elle est en lien dans la description de l'épisode. Et évidemment, on vous invite à la regarder avant de nous écouter, l'analyser, ou bien vous vous dites que ça suffira, voilà, YOLO. Alors, cette BA, on va commencer par les stats, vous connaissez. On va vous dire combien de plans il y a par seconde dans cette BA, avec un savant calcul de notre invention. Il y a 42 plans en une minute, 34 de BA, ce qui nous donne une moyenne de...
0,6,
c'est trop.
0,5.
On est sur du 0,4 plans par seconde, monsieur.
Mais c'est si peu.
C'est si peu. Il n'y a pas beaucoup de plans, on ne nous montre pas beaucoup grand-chose en même temps. Franchement, il y a 42 plans, c'est pas énorme. Mais bon. Peut-être que ça annonce aussi l'ambiance du film qui ne sera pas Fast and Furious. Hein, ça sent.
La famille.
La deuxième stat que tout le monde adore. Une stat très très importante. Hein. Le film dure 1h57 et la BA nous montre 73 secondes d'image du film.
Non.
On fait le calcul.
Tu vas pas dire quand même que ça fait du 1%.
Moins de 1%.
Combien t'as dit ?
1%.
Non, putain, mais t'es trop fort, c'est ça ?
Eh ouais. Bah, je sais, mais c'est moi qui ai inventé
1%.
Ça.
On voit 1% du film dans la BA.
Et c'est génial. Voilà. C'est la première fois qu'on a un chiffre rond.
Ah, bon, c'est toujours pas à quoi ça nous sert. Mais...
on vous donne. Parce que bon...
C'est genre vraiment, on lâche des chiffres c'est... histoire de dire qu'on est intelligent.
C'est...
quoi.
On est comme pour les personnages d'Aronofsky, on a des obsessions comme ça. Nous, c'est les pourcentages inutiles.
C'était mais le les film pourcentages. Fait moins de 2 heures.
Le film fait moins de 2 heures, il fait 1h57 et ça,
on
ouais.
aime. Qu'est-ce qu'on aime ça.
On fait une standing ovation pour ça.
Bravo, bravo. Babylone 3 heures, c'est pas possible les gars.
Babylone 3 heures, putain ouais. Il y a beaucoup de films qui font maintenant plus de 2 heures. Hein. Ça, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est devenu la norme. Le déroulé de la BA, on se lance tout de suite histoire de pas perdre de temps les copains. La BA, cette BA s'ouvre. BA toute fraîche hein, d'ailleurs. Au moment où on enregistre, elle a à peine une semaine. Donc, voilà, je tenais à le dire. Hein. Bref, la BA s'ouvre sur un dézoom sur zoom. C'est rigolo. Je voulais mettre ces deux mots dans la même phrase. On a un dézoom sur zoom en fait. Les zoom, c'est l'appli caméra qui a connu sa gloire à la période du confinement, évidemment, parce que ça permet de faire des cours à distance, notamment. Donc voilà, et on découvre que bah il y a un cours qui est en train d'y avoir là. Donc on voit tous les étudiants qui sont là devant leur webcam chez eux. Et
on a un petit indice déjà dans l'image.
On a un petit indice dans l'image, dans le sens où il y a marqué instructeur au milieu.
Exactement, et l'image est noircie.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ?
C'est-à-dire que le professeur ne montre pas son visage à ses élèves déjà.
Peut-être qu'il a oublié d'enlever le scotch sur sa webcam quand il se les branle.
Parce qu'il en caleçon.
Oh, je comprends pas, ma webcam elle marche pas. Mais bon, enfin, mais ça marche jamais. J'ai pourtant démarré
l'ordi. Parce qu'on nous surveille, évidemment, la NSA, et jusque-là, chez vous. Donc voilà, en fait, on apprend que du coup, c'est un prof. Brendan Fraser.
Bah sûrement en littérature, en tout cas, ou en école de journalisme.
Ça va être, ouais, plutôt ça, plutôt lettres. Quoi. Parce qu'il parle de personnages et tout, de récits. Donc.
Mais un prof pudique qui décide de ne pas se montrer, qui se cache, qui... ça doit faire bizarre d'avoir un cours juste en audio. Du coup, t'as pas le professeur en face de toi.
Bah, c'est, ouais. c'est ce qu'ont vécu les étudiants pendant un an et demi, pendant la crise Covid. Hein.
Bah, oui. Non, ils voyaient leur professeur. Là, je pense qu'il y a une vraie intention de se cacher. De ses...
Oui, pour ce personnage-là, en effet, c'est volontaire.
Mais ils peuvent le googler. Hein.
Bah à la limite il tape le nom du prof j'avoue et puis il voit. Ouais. Hein.
Oui mais peut-être qu'il avait pas la même forme physique parce qu'on va tout de suite le voir dans le plan
dans
le contre-champ.
Peut-être qu'il a truqué Google pour que ça mène à
dans le contre-champ du zoom Brendan Fraser et là c'est vraiment XXXXXL. Hein.
Bah là
on a dépassé le cas de l'obésité morbide.
Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à notre Brendan. Donc ouais j'imagine qu'il est prof de lettres parce qu'il dit je sais ces règles peuvent sembler contraignantes mais n'oubliez pas d'apprendre à écrire dans un style clair et convaincant. Ça, c'est le but. Le but, c'est d'apprendre ça. Pensez-y, faites un texte sincère avant tout. Donc, ouais, il doit être professeur ou journaliste ou...
Oui, et puis ça nous montre du coup ces contradictions. Il parle de sincérité, mais c'est quelqu'un qui ne va pas se montrer, qui a l'air d'avoir tué beaucoup de choses. On va le voir plus tard dans la bande-annonce à sa famille. Donc, c'est peut-être un premier élément de questionnement sur ce personnage. Quoi.
En tout cas, il a l'air intelligent.
Sensible.
Ça veut dire ça.
Sensible en tout cas.
Je veux dire, ça donne une info sur le perso. Ça aurait pu être un mec qui reste cloîtré chez lui.
C'est un mec éduqué en tout cas.
Il est quand même professeur.
Attends.
Attends.
Il a son CAPES, le monsieur.
Le gars, attends.
C'est pas si facile.
Je peux te dire que c'est pas un teubé. Hein.
Mais là, on découvre un Brendan. Hein, je l'ai déjà dit, mais énorme. Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre Brendan? Déjà, ça fait plaisir de le revoir, mais.
Bah, des prothèses. Bah, une bonne prothèse.
Ouais. Au début, moi, je croyais vraiment qu'il était gros comme ça. Parce que les prothèses sont bien faites.
Ouais, c'est hyper bien fait. Bon oui, alors, on peut-être en parler tout de suite, mais Brendan Fraser, t'as pu penser ça parce qu'il a un petit peu disparu. On sait qu'il a fait une énorme dépression pendant une bonne dizaine d'années. Alors,
Et pourquoi ?
Bah, il a été agressé sexuellement. C'est ça, hein ?
C'est ça, ouais, dans le milieu de la
profession. Milieu d'Hollywood. Ça l'a détruit psychologiquement. Il a été obligé de s'écarter des plateaux et il en a perdu ses cheveux, quoi.
Ouais, alors qu'on lui voit une grande carrière à l'époque, hein. C'est quand même un acteur de notre génération aussi.
Moi, c'est clairement un héros de mon enfance.
Ah ouais,
la momie, c'est un de mes films préférés de...
J'ai revu La Momie
George
il y a pas
longtemps.
C'est incroyable.
Oui, moi, c'est plus Georges de la Jungle, m'arrête.
Je disais, Georges de la Jungle, c'était un de mes films préférés quand j'étais enfant, quoi.
Georges de la Jungle, attention au tronc.
Ah merde, pardon. Aussi fort qu'un lion.
Il est plus fort qu'un lion avant, c'est vrai.
Attention au tronc.
Bam.
Attention.
C'était bien Georges de la Jungle,
mais trop bien Georges de la
Jungle. Mais
la momie,
j'ai revu La Momie là dernièrement, banger absolu.
Ah bah,
c'est abusé.
La mise en scène.
J'ai appuyé play avec le petit doigt qui frétille en mode j'ai peur de ce que je vais revoir. En fait non, gros film d'aventure, trop bien
avec une mise en scène incroyable.
Et la mise en scène trop bien, c'est drôle ce qu'il faut, c'est vraiment le
de Sommers.
Trop bien, Ramsès et compagnie, les effets spéciaux en plus sont pas trop mal vieillis, c'est plutôt
Anaxunamun.
Non, la momie c'est bien. Moi je l'adorais dans Endiablé aussi.
Endiablé avec Liz Hurley, mon crush de l'époque.
Ah, moi aussi j'étais amoureux de Liz Hurley quand j'étais petit.
Surtout dans Endiablé,
oh là là.
Sexy. Eh.
Tiens, je vais le revoir. Tiens.
Romain, pourquoi tu m'as post-it sur ta webcam?
Alors Brendan Fraser, du coup, qui apparaît vraiment plus qu'obèse, hein. Dans cette BA.
Il a une prothèse de goitre.
Alors d'habitude je le fais pas, mais là ça va nous apporter un peu de grain à moudre pour la BA, parce que c'est
un
vrai
peu de grain à moudre du coup.
De grain à moudre. Oh,
oh joli,
bravo,
je te ouais,
sors d'ici, sors d'ici. Non, je déconne.
Grossophobe, mais j'aime beaucoup aimer.
Non, mais bon, d'habitude je regarde pas, mais en faisant un peu mes recherches, j'ai vu un mot qui m'a sauté aux yeux, qui sortait du synopsis, et c'est le syndrome d'hyperphagie incontrôlée.
Ah oui.
C'est de quoi est atteint le personnage en fait.
Et qu'est-ce que c'est donc ?
Peut pas t'empêcher de manger.
Ouais. Je vais vous expliquer. Docteur Wikipédia en
Vas-y,
place.
Dis-nous.
Le syndrome d'hyperphagie incontrôlée ou hyperphagie boulimique est un trouble des conduites alimentaires. Il se distingue de la boulimie par l'absence de contrôle du poids et donc l'absence de vomissement, de prise de laxatif ou de pratiques sportives excessives. Les crises d'hyperphagie sont caractérisées par la prise en une courte période de temps, moins de 2 heures, d'une quantité de nourriture dépassant ce que la plupart des individus mangent dans le même temps et les mêmes circonstances. Donc vraiment là, tu vas à fond.
En gros,
ils
se gavent pendant un temps très court, quoi.
Et tu te fais pas vomir après.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'arrives en plus à agrandir ton estomac et à supporter de prendre autant. Ouais.
Alors pourquoi on en arrive là ? Parce que c'est lié à un état dépressif et c'est vraiment ce qui va créer, hein, la dépression va vous amener sur ce syndrome. Si malheureusement, si ça se retrouve sur votre chemin, bah bam, syndrome d'hyperphagie. Et du coup, ça peut causer des troubles assez contraignants. Hein. Je vous les liste. L'ingestion d'une grande quantité de nourriture, parfois sans sensation physique de faim, en une courte période de temps, nettement plus rapide et volumineuse, bon, ça on a déjà dit, s'accompagne d'un sentiment de perte de contrôle. Donc, perte de contrôle. L'individu peut s'isoler pendant les crises pour cacher son comportement. Là, on est bon là pour le Brendan.
Hein. On parle sur la honte. Hein.
Une sensation de mal-être, de dégoût, de sentiment de culpabilité ou de honte après avoir mangé. Ces crises ont lieu au moins une fois par semaine pendant 3 mois. L'enfer. Allez, on y est, l'enfer. Et une absence de comportement compensatoire comme la prise de laxatifs et les vomissements. Voilà. Donc, pas cool, hein. Donc, c'est pour ça que,
c'est littéralement des gens qui se tuent en mangeant, quoi.
Et ça, c'est clairement, après, physiquement, on le voit dans la BA, mais bon, tu peux pas marcher, du coup, t'es immobilisé, tu peux plus faire grand chose.
Du coup, on l'a pas dit, mais il a pas l'air de pouvoir marcher, il se déplace dans un fauteuil roulant, il est quand même dans un état où il peut vraiment plus se déplacer.
J'ai l'impression qu'il est même très isolé dans sa maison, c'est-à-dire que sa maison a l'air en elle-même isolée et lui ne bouge pas de sa maison, quoi, il sort pas, en fait.
Bah alors. C'était certainement sur quoi s'appuyait la pièce de théâtre qui devait être du coup huis clos, quoi, comme beaucoup de pièces de théâtre en vrai. Mais voilà, je pense que le film va vraiment se passer à 98% dans cette pièce.
Et donc, on apprend qu'il est isolé probablement géographiquement, mais on sait aussi qu'il est donc du coup isolé dans son cadre familial. Et sa fille débarque.
Alors là, il y a l'arrivée d'un bus qui arrive. Et si on tend l'oreille, on peut entendre ça, écoutez. Parce que qui en sort ? La petite rouquine de Stranger Things qui débarque là, qui en fait est la fille de Brendan Fraser et qui débarque, voilà.
On débarque.
Salut papa, wow, t'as abusé sur le Nutella ? C'est horrible comme blague, j'arrête ça tout de suite. Excusez-moi.
Alors ce qu'on apprend en tout cas, c'est que lui considère que sa fille est incroyable.
Ouais.
On apprend aussi qu'il l'a pas vu depuis des années.
Ouais,
elle a 8 ans.
Ouais, elle avait 8 ans la dernière fois qu'il l'a vu.
Et donc on apprend que, en effet, elle lui pose la question de pourquoi t'as autant grossi. Et il lui répond : j'ai perdu quelqu'un.
Ouais. Et ouais, c'est bizarre qu'il ait cette obsession aussi. Qu'il ait cette obsession de vouloir faire en sorte qu'elle soit bien, quoi. Je veux que tu t'es la meilleure, t'es ma fille.
Mais
t'es
est-ce
géniale.
Que ça, ce discours-là, de il veut s'assurer qu'elle est bien et tout, est-ce que c'est pas un peu un discours de pré-mort, enfin, c'est-à-dire qu'il est pas loin peut-être de clamser et en fait c'est un peu un truc des dernières heures de culpabilité à.
On a des indices plus loin dans la bande-annonce qui nous laissent le croire. Il y a un petit, détail, c'est que quand il dit qu'il a perdu quelqu'un et que depuis il est, enfin qu'il a grossi à cause de cette perte-là, on voit une photo de lui avec quelqu'un et c'est un autre homme.
On voit pas, t'as trop vite.
Non, moi je crois que c'est
ici. Moi j'ai mis un arrêt sur image et c'est un autre homme. Alors je pense que c'est un père qui a. Abandonner sa famille pour vivre avec un autre homme.
Ah ouais, peut-être. Tu crois que...
Ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça.
Bah possible, mais ce qu'on voit aussi au moment où on évoque un peu tout ça, on voit une chambre. Une chambre qui a l'air figée dans le temps, qui est super bien rangée, les draps sont lisses, les oreillers sont bien en place, elle a l'air de pas bouger.
Donc c'est quoi qu'il arrive, c'est son conjoint ou sa conjointe qui l'a perdu, ça c'est ce qu'on comprend. C'est son amoureux, son amoureuse qui l'a perdu, et moi je pense que sur la photo c'est un autre homme.
Ah, ok. Ce qui aurait conduit sa dépression et du coup son syndrome d'hyperphagie, quoi.
Et pourquoi aussi peut-être il s'est isolé de sa fille et qu'il lui dit « Personne n'a envie d'avoir un père comme moi » parce que du coup c'est peut-être l'image honteuse du père qui a lâché sa famille pour vivre avec un autre homme dans une Amérique plutôt puritaine, vu que c'est peut-être un peu l'Amérique profonde aussi. Ça serait assez logique.
Ou même sans ça, s'il a quitté sa famille pour se mettre avec quelqu'un d'autre, peu importe le sexe de la personne, il a quand même abandonné son enfant, quoi.
Oui, bien sûr, mais... Bon, à notre époque, malheureusement.
Mais ce qui est surprenant, c'est pourquoi elle vient, en fait. Ça, la BA donne pas vraiment de réponse.
Bah, sa mère peut être morte, elle a peut-être fugué.
Récupérer la thune.
On va le savoir.
Je pense pas que sa mère soit morte parce qu'on voit un dialogue entre eux où elle lui demande s'il parle avec la mère.
Ah, mais s'il parle peut-être avec une tabouija. Ah, ah. Non, mais blague à part. Hein. Je sais pas.
Oui, remarque, c'est
étonnant.
Vrai.
Qui c'est, qui sommes-nous?
Merci de ton intervention.
Kevin non, aussi mais... fait des lancements.
Attends, regarde la Nathalie Portman là, qui parle avec un signe là, pendant tout Black Swan. Pourquoi on n'aurait pas encore peut-être l'idée...
Faut ouvrir les chakras.
On va y revenir parce que elle est la petite rookie de Stranger Things qui débarque.
Sadie Sink.
Sadie Sink, oui. C'est vrai qu'elle a un nom. Sadie Sink qui débarque. Donc voilà. Ils n'ont pas l'air de trop s'entendre. Mais aussi, il y a un autre personnage là qu'on voit aussi.
Son infirmière, j'ai l'impression.
Bah, je sais
ouais,
pas.
C'est son aide
oui, on dirait son assistante personnelle. Enfin,
alors, ce qui est bizarre, c'est que là, la femme là, qu'on a pu voir aussi dans Downsizing, c'est l'Asiatique qui joue dans Downsizing, que j'ai détesté.
C'était pas ouf.
Avec
film.
Matt Damon qui devient petit là.
Oui. Ouais, ouais, ça parle. Bon, bref, autre sujet, mais bien claqué au sol. Elle a pas l'air. C'est trop bizarre parce qu'elle a pas l'air contente que Brendan il soit dans cette optique de se rabibocher avec Sadie Sink.
Bah, s'il a vraiment ce trouble hyperphagique, elle a peut-être peur que ça crée chez lui de l'angoisse et que ça recrée des crises et que ça le mette en danger. Ouais. Peut-être ça.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'elle veut essayer de le protéger.
Elle a l'air d'être un peu plus que son assistante personnelle, en vrai. Est-ce que ça serait pas la mère de la personne décédée?
Ah, ou peut-être une sœur.
La belle-maman.
Est-ce que ce serait pas un fantôme?
Non, mais toi, tu veux que ça soit Ouija en fait le film?
Ça serait pas
mais
un fantôme.
Mais
bien sûr.
Je me dis que peut-être le mec il a des apparitions comme ça et que ce sera montré à l'image.
C'est pas The Ghost Whale, c'est The Whale.
Je pense que Kevin a raison, c'est soit quelqu'un de son entourage à qui il a pas rompu le contact, soit c'est peut-être en effet son assistante de vie qui est devenue très intime avec lui. C'est possible quand t'es très isolé que tu deviennes très proche de tes patients, quoi.
Moi je le vois comme ça, j'ai l'impression que c'est comme s'ils vivaient ensemble parce qu'elle vient l'aider tous les jours. J'imagine en fait que par exemple, il bouge vraiment pas de son fauteuil, il peut rien faire, il peut pas bouger. D'ailleurs, peut-être la chambre qui est immaculée, en fait, c'est sa chambre dans laquelle il dort même pas, tu vois. Enfin, je sais pas.
Ou la chambre de la personne défunte. Tu sais, souvent ce truc dans le deuil où tu veux plus toucher.
Mais tu vois, peut-être que c'est encore plus un huis clos que huis clos, c'est que c'est reste dans son fauteuil. Voilà.
En tout cas, lui dit.
Non, un 48 clos. C'est un 48 clos dans un fauteuil.
L'infirmière lui dit quelque chose d'intéressant. Elle lui dit : pourquoi est-ce que tu veux absolument renouer avec ta fille ? Tu l'as pas vue depuis ses 8 ans. Et il lui dit, il la regarde en lui disant : Lise. Et en fait, on comprend que, comme tu dis, je pense qu'il y a une finalité. Il vient d'apprendre qu'il va probablement décéder à cause de son état et qu'il a un truc à régler avant sa mort, quoi.
Bah c'est pour ça que moi, je me dis que c'est pas une infirmière, tu vois.
C'est peut-être une... Comment ça s'appelle, là, les accompagnatrices de
la mort? Parce que là, en fait, les rôles me paraissent inversés, du coup.
Tu vois, c'est un fantôme.
Bon, mais peut-être.
Si. Vous allez voir, il y aura une petite scène de poterie à un moment, ils vont faire des vases, là, vous allez pas comprendre.
Oh putain,
vous allez voir. putain, j'ai la scène.
Mais moi aussi, je l'ai.
Donc bon, elle est vraiment assez énervée, du coup, cette femme. Elle menace même de planter Brendan avec un couteau. Et là, c'est attention, c'est la petite blague du film, enfin, de la BA.
C'est bien parce que ça veut dire que le personnage, il a peut-être aussi beaucoup d'humour malgré tout.
Ouais.
Et ça va sûrement le rendre attachant. Parce que si c'est vraiment un personnage qui est au fond du trou pendant... les moins de 2 heures que dure le film, peut-être que le film serait vraiment trop
lourd. Là, la blague, en gros, elle veut le planter et il dit « Non, mais ça m'atteindra même pas avec ma couche de graisse. » En vrai, à la fois, il fait de l'humour et à la fois, c'est quand même très triste aussi, tu vois. Enfin, c'est
un
humour qui ne te met pas bien, tu vois.
Mais derrière, pour rigoler, elle fait semblant de le planter et lui, je te jure, il fait un espèce de rire enfantin.
Ouais, il lui fait des guilis-guilis, quoi.
Ça m'a fait... Vraiment, ça m'a fait sourire quand j'ai
vu. Oui, mais il fait rire enfantin, mais il a des larmes dans les yeux. Je sais pas si
tu sens qu'il y a une
détresse. Il est au bout de sa vie.
Alors, tu ris des gens qui sont en détresse, William, t'as pas honte?
Vous trouvez pas qu'il ressemble à Johan, Brendan Fraser? Pas ce Brendan là, attention. Non.
Oula.
Non mais je le disais même. Mais non,
oui.
Johan notre autre copain du podcast, mais même
il a des yeux clairs pareil.
Bisous Johan,
je sais pas, moi je trouve.
Tu n'es pas comme lui.
Bon, vous savez pas à quoi ressemble Johan, mais si vous voulez vous faire une idée, dites-vous que c'est Brendan Fraser.
Mais pas dans The Whale.
C'est
pas
gentil.
Pas dans The Whale évidemment.
C'est gentil.
Alors, le panneau dans la BA, et on va arriver vers la fin bientôt, qui nous annonce que le film a déjà 3 nominations aux Oscars. Et ouais, parce que Darren, hein, mine de rien, il a pas fait beaucoup de films, mais à chaque fois, ça part aux Oscars.
On l'a pas dit, mais Brendan Fraser, il a déjà eu le Golden Globe du meilleur acteur pour ce rôle-là.
Ah, mais bah, il est pressenti pour l'avoir. Hein,
et même, il est pressenti pour avoir l'Oscar.
Donc, on a l'Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser et j'annonce qu'il l'aura.
Oui, je pense aussi.
On a la nomination aux Oscars de la meilleure actrice pour le second rôle avec Hang Chau. Et on a aussi un Oscar pour les meilleurs maquillages et coiffures et j'annonce qu'il l'aura.
Ah oui, probablement. Voilà,
je pense que c'est le meilleur concurrent.
S'il n'y a pas de film d'époque en face, je pense qu'il l'aura.
Mais même film d'époque ou pas. Hein. Il y avait eu... comment il s'appelle ce film ? Scandale ? Non, je ne me souviens plus.
Oui, Scandale.
Oui, Scandale sur les Fox News. Voilà. Ouais.
Tu vois, ça a pris meilleur maquillage.
Oui, ils aiment bien tout ce qui est prothèse ouais. très réaliste.
Ouais, c'était bien ça. Ouais.
On n'a pas parlé des... On n'a pas parlé des producteurs du film, pas trop, mais...
Ah, dis-nous, j'ai pas fait de recherche dessus, pour le
coup. Non, j'ai pas fait de recherche, mais on peut au moins les citer.
On
déjà,
a vu A24.
Déjà, il y a A24, donc c'est plutôt une bonne...
Oui, en fait, déjà, il y a quelques mois, quand on a vu que le prochain Aronofsky serait chez A24, on était hypés. Hein. Enfin, A24, je dis on, mais...
Le studio qui est en train de tout fracasser en ce moment.
Il y a A24, et puis il y en a 3 autres qui sont annoncés. Il y a Protozoa, il y a A Real Passion et Original Factory. Bon, bah,
mais Protozoa, c'est pas le sien, d'ailleurs, c'est pas celui d'Aronofsky.
Peut-être. J'avoue que j'ai pas fait mes recherches non plus.
C'est ça, c'est juste pour les dire.
Non, mais il faut les citer, voilà. Ils ont produit un film qui va sûrement rafler beaucoup de récompenses, autant les citer.
J'ai un doute.
Mais A24, ça rassure.
A24, ça rassure de ouf. Ouais. Et en plus, là, je crois que si je dis pas de conneries. Oui, Clémence ?
Original Factory, je me demande si c'est pas ceux qu'on produit Everything Everywhere
ouais.
All at Once.
Je crois que c'est le distributeur.
Enfin, c'est genre grâce à eux que c'était distribué, quoi.
Ils sont assez liés. Mais là, si je dis pas de conneries, aux Oscars, il y a le studio qui est vraiment au-dessus de toutes les nominations, c'est A24. À une époque où vraiment quand il passait une tête c'était déjà un exploit, là vraiment A24 ouais, voilà le studio, mais ça on l'avait déjà annoncé à l'époque quand on faisait Midsommar, on a dit ce studio va tout fracasser,
et ben ça rassure,
et ben voilà quoi, voilà. Oui, voilà,
c'est
alors.
ça Darren, ça Protozoa.
Protozoa, ça Darren. Bon,
tu sais, à une époque dans les BA A24 ils faisaient toujours un petit truc thématique avec leur logo, mais là ils ne l'ont pas fait.
Ah ouais, mais bah ils allaient faire quoi, en baleine?
Petite baleine.
Des coquillages.
Le problème c'est que si tu transformes un 2 en baleine, ça fait un 8 quoi, donc bon ouais. À 84, ça aurait été nul, tu vois.
Je l'ai pas.
Un 2 en baleine.
2 fois 2, 4, 8. Oula.
On a déjà le prochain Aronofsky qui est annoncé.
Vendredi soir.
On a déjà...
Le prochain Aronofsky qui s'appelait Adrift.
Que des infos, là.
C'est que des infos. Je suis sur Protozoa, ils me disent...
Adrift, le spin-off de Fast and Furious, version Aronofsky.
Bouleversant, déchirant, impressionnant, un panneau de la BA avec les adjectifs de BA. Parce que... C'est vrai ou pas, ça,
moi, je
à
me
chaque fois.
Pas, on saura bientôt. On se méfie un peu de ce genre d'annonce, mais là, sur celui-là, j'ai envie d'y croire.
Dans la vie de Brendan, on l'apprend dans cette BA, c'est que son but, hein, c'est de redonner de la confiance à sa fille, de s'assurer qu'elle aura une belle vie et qu'elle veillera sur les autres. Voilà.
Bah, si sa fille, elle a vraiment, genre, par exemple, peut-être fugué sa mère ou quoi, elle a peut-être un trauma, sa fille. On voit un moment qu'elle a l'air d'aller frapper à la porte de quelqu'un, un mec un peu plus jeune.
Il y a un mec à un moment.
Un peu jeune aussi. Peut-être qu'il y a un trauma. Peut-être qu'elle va avoir un enfant. Peut-être qu'il y a peut-être un truc comme ça.
Attends, elle a 14 ans.
Les théories.
Mais non, mais c'est...
Je pense qu'elle a plus 14 ans. Hein.
Ou bien peut-être que putain, elle est en train de nous faire une sixième sens et qu'elle est morte depuis le début. Et que c'est un fantôme.
Roman, il n'y a pas de fantôme.
Peut-être qu'il n'y a que des fantômes. Sauf...
Et c'est ça que lui dit l'Asiatique en disant elle n'existe pas.
J'aimerais bien que t'aies raison.
Et Roman, franchement, alors là.
Roman, nous ne sommes pas là.
Et on va terminer la BA avec un. Plan qui va nous donner un peu de liberté parce que depuis tout à l'heure on est entre quatre murs, c'est le plan des pieds dans l'eau, le plan de la mer.
Oui, alors d'ailleurs je comprends pas en fait le titre The Whale.
Mais parce qu'il est gros donc c'est
non,
une baleine.
Non mais ok, premier degré on peut se dire ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose tu vois,
on l'avait prof de littérature, Moby Dick va y avoir un parallèle, de toute façon les Anglais ils n'ont qu'un livre, c'est Moby Dick.
Et peut-être qu'à ce moment-là ça y est, c'est sauvé Willy, tu vois, il a retrouvé la liberté.
Mais c'est comme, oui,
il
c'est comme
un gros
à la fin.
Plongeon au-dessus des cailloux là.
Ma chérie.
Au revoir, la petite rouquine de Stranger Things.
Et comme à la fin de Big Fish. Dans Big Fish, il emmène son père en poisson dans l'eau.
Ouais, mais non, il meurt sur un lit d'hôpital surtout. Mais
enfin, s'il se transforme en baleine, move audacieux, parce que les baleines en ce moment, elles ont quand même bien la cote en mer de Japon.
Ou bien sinon, j'annonce, et alors là, je mets un petit billet. On est sur un plan, on verse les cendres du mort dans l'eau. Et c'est
ah oui, elles te reviennent dans la gueule avec le vent.
Est-ce que c'est ses pieds? Est-ce que c'est ses pieds?
Je pense que c'est les pieds de la fille de Sadie Sink, la rookie. Ouais. Et qu'à la fin, genre, tu sais, il est mort et tout, machin. On a chialé pendant tout le film et tout. Puis ils ont été obligés de l'incinérer parce qu'il n'y a pas de cercueil à cette taille. Hop, dans
le prix pour réserver le caveau. Mais attends.
Ah ben là, donc tu vas creuser deux espaces pour.
Celui qui creuse. Il passe deux jours.
Allez, on arrête la blague grossophobe.
Oui. C'est parti.
On en parle comme si ça n'existait pas, les tractopelles, tu vois. Mais... Mais non, mais pour creuser, tu te creuses plus à l'appel, Renaud.
J'avais pas imaginé ça. Pardon.
La BA se termine sur ce beau plan, plein d'espoir. Mais on sait que chez Aronofsky, plein d'espoir, ça dure deux secondes. Après, on retombe dans les enfers. Est-ce que ça vous donne envie de voir ce film, cette petite BA, hein, pour le coup, Clémence?
Oui, ça a l'air très émouvant. C'est très mystérieux quand même, même avec la BA, on en sait peu sur ce qui va se dire finalement. De quoi ils vont parler si on reste dans la maison entre les deux là. Voilà. Bon après, j'imagine que ça va être éprouvant.
Bien vu. William, as-tu envie de voir ce film quand tu vois cette BA?
Ah ouais, j'ai vachement envie de le voir. En plus, je sens que Brendan Fraser va nous éblouir. Donc, j'adore cet acteur. Je suis très content qu'on le revoie et. Rien que pour ça, je vais y aller.
On l'aurait jamais imaginé dans un rôle comme ça. Hein.
Non, mais je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Il a l'air touchant. Et
c'est un peu un move à la Aronofsky, ça, de ressusciter un peu
les
anciennes
gloires. Ouais, un mec disparu, il l'avait fait avec Mickey Rourke. Il le fait là avec Brendan Fraser, je trouve ça cool.
Alors qu'avec Jared Leto, ça fait tout l'inverse, quoi.
J'avoue.
Mais lui, il l'a repêché, il faisait rien, et puis...
Ah, Kevin,
genre, il fait toujours rien. Hein,
il fait
toujours
pas. Morbius, si, il essaye. Morbius, bon. Il fait des trucs. J'ai très envie de le voir. Bah déjà parce que j'aime bien Aronofsky, et puis parce que le retour de Brendan, ça fait plaisir de le voir. Et j'ai l'impression que c'est un vrai rôle de
composition.
De composition, un vrai rôle à prix, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Et toi?
Alors, quand je vois cette BA. Je vous dis tout de suite, non, j'ai pas envie de voir le film. C'est pas une BA qui me donne envie d'aller voir le film.
T'es venu ici pour souffrir.
C'est une BA que j'ai envie d'aller voir parce que c'est Aronofsky. J'ai une BA que j'ai envie d'aller voir parce que c'est le retour de Brendan Fraser. Et surtout de le voir aussi maquillé comme ça. Ça implique forcément un rôle surpuissant. En plus de ça, voilà, tu sais que la presse, on a fait beaucoup d'éloges, etc. Mais si je me contente juste sur l'aspect factuel, cette BA ne me donne pas du tout envie de voir le film. Je sais pas de quoi ça parle. On voit trois personnages. Ça se passe dans une seule et même pièce. Ça n'a pas l'air de vendre de la joie ultime.
L'avantage, c'est que tu n'es pas touché par le SDA.
Donc, tu vois, je me mets à la place.
Oui, mais si tu vois Brendan Fraser.
Bah ouais, mais si quelqu'un d'aujourd'hui qui ne connaît pas Brendan Fraser, parce que c'est quelqu'un de notre génération, tu vois, trentenaire et tout, mais un jeune de 15-16 ans, il ne va pas être appelé. Enfin, il n'aura pas envie de voir ce film, à mon avis. S'il ne connaît pas Aronofsky, s'il ne connaît pas Brendan Fraser, il va se dire ouais, il y a la meuf de Stranger Things, c'est tout ce qu'il va se dire, tu vois. Mais non. Me donne pas envie de voir le film comme ça, mais après oui, ça me donne envie parce que dedans on voit le nom d'Aronofsky, on voit Brendan Fraser, et puis voilà. Après, c'est vrai que la BA est pas juste des images, et que tu sais que derrière le film a fait quand même sensation dans tous les festivals. Donc,
ce qui est pas mal, c'est que la bande-annonce elle survend pas le film, et ça pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'ils auraient pu jouer le côté ultra pathos, nous mettre une scène déjà déchirante pour nous attirer en disant ah là on va aller pleurer, on va kiffer. Là c'est pas le cas, ça a l'air d'être quand même assez. Assez subtil, et peut-être que le film va être subtil en termes d'émotion. Peut-être qu'on sera pas ni dans le pathos, ni dans le troll joyeux, on sera peut-être juste dans un espèce d'entre-deux, de deux personnages qui devraient apprendre à se connaître, et on va suivre ce truc-là, ça va être construit autour d'un temps long, ou peut-être juste court, et je sais pas, moi ça me rassure plutôt bien en fait.
Ouais, moi aussi, tu sens que c'est une BA qui t'en dit. C'est ça, tu sens que c'est une BA qui t'en dit pas trop, qui veut pas t'en dire. Donc je pense qu'il y aura de la surprise. Je dis pas qu'il va y avoir des twists de dingue, on va être là waouh génial, en fait c'est un fantôme mais je pense qu'il y aura beaucoup plus, enfin je pense qu'on va avoir une histoire qui va être beaucoup plus développée que ça dans l'émotion, et je suis assez curieux de voir ça.
Oui c'est sûr que c'est pas une BA Avengers, quoi. Ça aurait été marrant, n'empêche. Avec Brendan Fraser.
Hello, my name is Nick Fury.
Qui fait du ventriglisse entre les immeubles.
Voici Wellman. Yeah.
La meuf qui débarque du bus, elle débarque avec la musique, bam, parce qu'il faut toujours la petite musique des années 80. Avec Hang Cho dans le rôle du fantôme.
J'en peux plus avec son
découvrez
fantôme.
En 3D, la truc qui tourne. The Whale. Le nouveau Aronofsky.
Ah, l'enfer.
Explosion. Fin de la BA. Ça aurait été fantastique. Bon, on est quand même hypé par ce film, malgré tout. On vous a dit déjà tout ce qu'on pensait du cinéma d'Aronofsky. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez envie de nous dire en un mot ce que vous pensez de son cinéma. On vous attend dans la partie commentaires, évidemment. Mais tout ça, c'était nos attentes, c'était notre avis sur la BA qu'on pense. Les autres personnes qui habitent cette terre, je parle bien sûr des internautes. C'est comme si, comme ça.
Comme si, comme ça. Comme si, comme ça.
Les commentaires des internets.
Comme si, comme si, comme ça.
Les commentaires des internets.
Clément.
Oui.
Les commentaires. Des internautes. Alors, ils ont envie de voir le Aronofsky.
Eh ben oui, et eh ben franchement,
je m'y attendais
j'ai
pas.
Que des commentaires positifs.
Des.
Ouais. En fait, vraiment, je vous jure, j'ai pas trouvé de commentaires négatifs. Les commentaires disent à peu près tous la même chose, que ça a l'air trop émouvant et que ça a l'air bouleversant. Enfin, vous allez voir.
Incredible.
Ah, après, bon, bah, c'est peut-être un certain type de gens qui ont commenté, quoi. Ça veut dire peut-être ceux qui aiment les bandes annonces Avengers, ils étaient pas là, mais voilà.
Ouais, je pense qu'ils étaient pas là. Ça a pas dû tomber dans leurs suggestions.
Alors, je commence avec... Alors, c'est vrai que par contre, les pseudos, on dirait des trucs un peu des... Bon, on dirait pas des personnes. Was Production.
On dirait une production.
Mmh. Ouais. West Production qui dit le retour ça se trouve c'est du lobbying, tu sais. Le retour spectaculaire de Brendan Fraser qu'on pensait tristement oublié, ça va être fabuleux. La bande annonce mérite d'office un Oscar. C'est fou.
Ah ouais. Ouais. Bonne annonce pour l'Oscar. Oh, imaginez un jour.
Les Oscars.
Il y a une catégorie qui se crée, la meilleure bande annonce. Est-ce que ça obligerait pas un peu les boîtes à nous faire des bandes annonces ultra chiadées, de ouf?
Bah, ça deviendrait le nouveau format.
Ah, parce qu'en vrai, tu vois, dernièrement, petite parenthèse, hein. Dernièrement, il y a eu la bande-annonce de Flash, là, le prochain Flash qui est sorti, là, qui s'annonce, je le sais, parce que trop d'expérience dans le milieu, qui s'annonce être une grosse douille. Mais la bande-annonce, elle envoie du steak, parce qu'ils sont trop forts. La
Warner, c'est des meilleurs.
La Warner, en bande-annonce, ils sont trop forts, alors que leurs films sont tous claqués au sol.
J'étais
quoi.
Sûr que t'allais dire ça.
C'est... Enfin voilà, donc tu serais trop marrant d'avoir une catégorie bande-annonce, enfin bref.
Oui, oui, ça serait.
Je donnerais pas l'Oscar pour celle-là, mais chacun a son avis, évidemment. Mm-mm. What else?
Bah écoute, les autres ne sont pas d'accord avec toi, hein. Tout le monde est dithyrambique. Atmosphère Média qui dit « Ouf, j'ai eu des frissons, cœur et mains jointes. La bande-annonce est simplement incroyable. »
Ah ouais, mais c'est, ouais. C'est que des gens de la profession, on dirait, qui se parlent
entre eux. Après, il y a des gens qui ont plus un pseudo de Jean, Kiara75, qui dit « Rien que le fait d'avoir regardé cette bande-annonce, j'ai pleuré. Brendan Fraser mériterait un Oscar pour sa performance. C'est un grand acteur. Son talent devrait être mieux reconnu. » Après, c'est aussi qu'il y a un énorme fan club de Brendan Fraser, bah, il faut ça. Le dire. Tout comme William, pour qui il est...
Ah ouais, ouais, c'est...
Mais comment ne pas aimer Brendan Fraser en même temps, c'est... Mm. C'est genre de la jungle, bordel.
Ouais, il a toujours eu en plus des rôles de gars hyper sympathiques, courageux. Il était beau gosse, donc. Il est beau gosse. Donc.
Alors, je continue les éloges. Hein. Nasmatic, qui a écrit « Je suis bouche bée depuis que j'ai vu la bande-annonce hier. Et je n'ai même pas encore vu le film. Vraiment hâte. »
Yeah, bah, tout le monde a hypé, ouais. Mmh.
Thomas Constant qui dit « Brendan Fraser, intéressant. Mais surtout, Darren Aronofsky, il ne fait à peu près que des chefs-d'œuvre. »
À peu près. J'ai bien fait de mettre à peu près.
Mais il y a Noé, quoi, déjà.
Il y a Noé au milieu, c'est pas trop ce que ça fait là.
Voilà, Abiu qui a écrit un film qui semble bouleversifiant. Bravo à Brendan Fraser et au réalisateur qui n'est pas un manchot.
Oui, c'était totalement bouleversifiant.
Oh, le jeu de mots, manchot, ouais.
J'étais bouleversifié.
Ah, j'avais pas capté.
Ah, c'est le champ lexical de l'Arctique.
Bon, après, sinon, pour trancher un peu, il y a Gohan Ultimaire qui a fait un petit discours. Je vous le dis.
De 4 heures.
L'idole des années 90-2000 effectue là un retour épatant. C'est vrai, et ça ne l'est pas. Car si Fraser livre effectivement une interprétation éblouissante devant la caméra de Aronofsky, l'angle du comeback est peut-être, tout bien considéré, trompeur. En cela que, au dire même de l'acteur, il n'est jamais parti. C'est nous, public et médias, qui nous sommes momentanément désintéressés de lui. Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'éprouver de la reconnaissance envers Brendan Fraser, attendu aux Oscars.
Oh, le donneur de leçons, hé hey. Oh.
On dirait un journaliste en herbe.
On s'est pas désintéressé de lui.
Il était plus là. Hein, il...
D'où elle m'accuse, elle, hein? Elle a des preuves que je me suis désintéressé
quoi,
de Brendan.
Moi, je me suis jamais intéressé à lui.
La pépé montre un mec.
Bah, là. La pépé. La pépé. Ah, la photo de... Ah, ah oui. Ouais, okay.
Oui, pardon, je parle comme les jeunes.
La pépé.
La pépé, mais oui, je sais pas.
La photo de profil.
Quelle pépé.
Hé, la pépé, tu viens boire une pastis.
La pépé, dis donc.
Un petit quinti pour la pépé.
Je parle des nanas comme ça.
La pépélina. Aïe, aïe, aïe.
Bon, je vous donne un dernier commentaire qui tranche aussi un peu parce qu'il est assez, comment dire, humour noir. Francis Doloride. Qui a écrit... Cool, un préquel de Seven.
Oh,
oh. Ouais, c'est un troll.
C'est un titre que je me suis censuré, ça, Seven Origins, mais moi aussi.
Salaud.
Moi aussi, je l'ai censuré.
Moi aussi, je me le suis censuré.
Mais je le dis quand même.
Je le dis quand même.
Bon. Okay. Bien sûr, ça fait référence au premier meurtre dans le film Seven en 2000.
Pour ceux qui n'ont pas la ref, regardez ce film avec Morgan Freeman et Brad Pitt.
Imagine, à la fin du film, c'est ça. T'as Morgan Freeman qui ouvre la porte.
Non.
Et c'est Seven.
Et c'est un fantôme. À la fin, il y a Bruce Willis, c'est un bordel. Ok, bah ça fait plaisir de voir des gens autour d'Aronofsky. Tu vois, moi je pensais qu'on allait avoir un comme si comme ça gratiné de personnes qui,
eh ben non,
qui allaient
non,
répandre
non,
leur...
De...
leur fiel.
Leur fiel. Bah merci Clémence. On en parlait juste avant avec Seven Origins, qui est un titre, mais qui ne sera pas le titre de la prochaine rubrique. C'est sûr.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Le fait ton titre, la rubrique où on renomme le film de la semaine, The Whale, la baleine en français. Bof, c'est pas ouf quoi.
Nul.
Nul. Clémence, des titres pour renommer ce film.
Oui. Oui. Ils sont un peu nuls. Je vous préviens.
Vas-y, vas-y, au revoir.
Alors, juste pour une blague, j'avais Allô maman bonbon. Oui, je sais, c'est nul.
C'est quoi la blague?
Bah, allô maman bobo. Allô...
Pourquoi bonbon?
Ouais, j'ai pas eu de texte. J'ai pas eu de l'expliquer, en fait.
J'ai envie de l'enfoncer. Pourquoi bonbon, Clémence?
Pourquoi maman?
Et sinon, mon autre titre, c'est Père Dodu.
Oh, il est pas mal.
Père Dodu, c'est pas mal. Il est pas mal.
Avec une petite catchphrase qui serait Brendan a le cœur gros.
Mais Père Dodu, c'est quoi? C'est pas un truc de volaille?
C'est une marque de cordon bleu, non? Père Dodu. Ouais.
Oui.
Mais il est bien. C'est ultra...
Père Dodu, il est
violent,
bien.
Non
ah, bah... il est trop... Moi, je le trouve bien. Franchement, il est drôle.
Bah, oui, mais c'est un père, il est Dodu.
C'est mal d'être Dodu.
Père Dodu, ok.
C'est mignon. En plus, Dodu, Dodu, c'est mignon. Quand même.
Mignon, ouais. Dodu, c'est
une histoire.
C'est très beau.
T'en as encore d'autres?
Non.
Ok, bah écoute...
L'agressivité dans ce nom.
Non. Non.
Kevin.
Oui. J'en ai quelques-uns. Ils sont pas tous bien, mais je vais tous les dire. Premier titre.
Introduction.
Introduction. J'ai Baleine à gosse. Il est bien aussi.
Il est bien.
J'ai bien. Tragédie de Grèce.
Ouais, c'est pas mal.
J'ai Brendan Fraisier.
Non, ça c'est une...
Parce qu'il est
il
gros.
A tenté la charlotte au Brésil. Ouais,
et j'ai Mon gros-père et moi.
Pour mon beau-père et moi.
Ouais.
Bien aussi. C'est bien. C'est bien.
Voilà.
Bien bossé. On reconnaît bien mes baleines à gosse. Là. J'en ai un
en
qui
plus,
me vient.
En plus, ça marche dans deux sens, baleine à gosse.
J'en ai un qui me vient du coup. C'est gosse. Pour ghost. Gosse.
Non, non.
William.
Bah, moi, j'en ai deux. Le premier, c'est pareil, c'est en référence à un classique de la littérature. C'est La Grèce de mon père.
Oh.
Ok, il est
dur.
Pousser.
Il est dur celui-là.
Il est dur, mais il est drôle.
Il est dur. Et le deuxième.
Oh.
Oh, oh putain, quand oh ça commence à rigoler à ses propres titres. Souvent, c'est que c'est vraiment pas bon à la fin, quoi.
Oh là là.
Le personnage principal, il s'appelle Charlie. Et j'ai Charlie et ses drôles de kilogrammes.
Non,
oh putain,
c'est trop dur,
c'est horrible.
Ah putain.
Ah, je suis un enculé.
Alors on prend ce titre, on le met avec Hollywood Boulevard.
Charlie, c'est drôle de kilogramme, pardon. Il vous a tous fait rire.
Oui, mais il nous a fait rire.
Nerveusement.
Voilà, pour le côté cringe de la chose, quoi. C'était surtout ça, quoi.
Moi, ce qui me fait rire, c'est que toi, tu ris, en fait.
Il est horrible, ce titre. Oh là là.
Ça marcherait mieux avec ces drôles de grammes.
Oui, mais c'est pas des grammes qu'il a en trop, quoi.
Alors, Requiem,
si,
Requiem for a gramme. Bon, ouais, bon, pas terrible.
Requiem for a drame.
Oh,
oh. Ouais.
Voilà, j'ai la machine qui se passe.
Romain, t'en as?
Bah ouais, Requiem for a drame. C'était mon titre de la semaine. Bon, bah, on est sur quoi, là? On est sur du baleine à gosse? On est sur... On est sur... Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai déjà mon avis sur Baleine à gosse. Pour
ouais,
moi,
ouais.
C'est ça. Baleine à gosse.
Et celui de Clément, oui, c'était oui. Bien, c'était quoi?
Père Dodu.
Père Dodu, moi,
ouais,
j'aime
non,
bien
il est
aussi.
Bien, ouais, il
Père
est
Dodu,
bien.
J'aime bien aussi. Quand même.
Et Baleine à gosse, en plus, ça marche parce qu'il a une gosse, mais en plus, il a des gosses. Version québécoise.
On a un niveau de blague aujourd'hui, là, c'est...
c'est un triple jeu de mots. Waouh.
Bah, allez, Baleine à gosse.
Vous êtes sûr? Charlie et ses drôles de kilogrammes.
C'est de la merde.
Ok, là. C'est juste pour être sûr, je voulais être sûr. Après un petit temps de réflexion, vous avez peut-être changé la vie.
T'es bien tenté.
Peut-être ce soir, dans mon lit, je vais me dire, putain, en fait, non. Il avait raison, c'est un putain de génie. Ok, Baleine à gosse, ce sera le nouveau titre pour remplacer The Whale. Peut-être qu'on prend la catchphrase de Clémence, en tant qu'affaire. Brendan a le cœur gros, ça marche. Décidément, quand tu mets gosse dans un titre, toi, ça fonctionne.
J'adore les enfants.
On se souvient de SOS Fantôme, là, enfin Ghostbusters. Ghostbusters.
Ah, c'est vrai, oui. C'était mais ça. J'ai fait que là.
T'as fait que là, mais ça a marché.
Oui,
du coup,
vrai.
Là, on est sur du 100% gosse, quoi. Donc, ça marche.
Oh, putain, ouais,
100% gosse, 100% réussite.
C'est vrai, c'est vrai.
Bravo, Baleine à gosse pour The Whale, le prochain Aronofsky, qui sort le 8 mars.
et qu'on ira voir très vite. Et on vous en reparlera dans un match retour. On va déjà se dire au revoir. On revient de notre migration. Ça. Allez.
On n'est pas bien. Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà, c'était La Béaz The Whale. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce film. On a très hâte de le voir. Et puis, on va suivre les Oscars. Qui m'est habillé sur Brendan, là? Tout le monde, hein?
Oui.
Tout le monde, parce qu'il y a quand même du lourd aussi en face. Hein,
moi, j'aurais bien mis Colin Farrell, Colin Farrell en Oscar
aussi, ouais.
De cœur.
Ouais, mais il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore assez mature, là, je sens pas. Non, si, en vrai, oui, mais on verra.
Ça va être difficile. Hein.
Parce que pour l'instant, on est en train de pronostiquer sur un film qu'on n'a pas vu, donc on verra s'il y a concours entre les deux.
Puis Hollywood, ça aime bien les héros qui sont tombés en disgrâce et qui reviennent, tu vois. Enfin,
c'est vrai. Bah, Mickey Rourke qui avait été nommé aussi à l'époque, tu vois, comme quoi.
C'est un narratif qu'ils aiment bien, ça les séduit, bon, on verra.
On verra ça et on vous dira ce qu'on en a pensé de toutes ces performances dans le prochain Aronofsky. Changement de décor, changement d'ambiance pour le prochain film, la prochaine BA qu'on va se faire. Peut-être reprendre la navette. Peut-être.
Ah.
On va voir s'il y a de l'essence. Si le moteur a été réparé. Mais parce qu'on va partir dans le temps, l'espace. J'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il y a du Dino. Il y a du Adam Driver. Pour l'instant, on est sur du bon.
C'est lui qui conduit.
Moi, s'il y a Adam, ça me va.
Il y a des bons ingrédients. Ce sera 65 avant la Terre. La Terre d'avant. J'ai oublié déjà.
La Terre d'avant.
J'ai un énorme problème avec ce titre. C'est que j'arrive pas à m'en souvenir. Mais ce sera ce film-là dont on va parler. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, blabla, etc. Et également sur YouTube, hein, la chaîne YouTube est ouverte, hein, je le rappelle. D'ailleurs, on a des épisodes qui marchent bien, qui marchent très très bien.
Quel est l'épisode qui marche le mieux?
Merci pour les écoutes. L'épisode qui marche le mieux, c'est l'épisode sur Rambo Last Blood.
Ah ouais. Bah oui.
L'épisode Picole, l'épisode 20, VIN. Un épisode qui fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'écoutes. Sur YouTube et c'est surprenant, ouais, ça fait plaisir. Bref, en tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas vous aussi à venir vous abonner. Ça nous soutient, ça nous permet quand même d'exister dans tous ces algorithmes un peu chelous. Et puis sinon, c'est sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous embrasse, à ciao, vite,
salut,
bye bye.
Shoshana!
Charlie et ses drôles de kilogrammes. Mec, j'ai rigolé tout seul pendant 10 minutes quand je l'ai trouvé ce matin.
Okay. Ce qui était rigolo, c'est que tu nous l'as raconté exactement comme Jean Dujardin raconte la blague des boules de Noël.
Ah, j'ai pas la ref.
T'as pas la ref?
Ouais, ça c'est terminé. Je me souviens plus.